Les voix de l'Amérique. Émission de Jacques et Dolly Le Goff. Dans la dernière des six émissions consacrées au roman américain de 1850 à 1950, nous parlerons de deux œuvres emblématiques de ce qu'on peut appeler la littérature du Sud. Le bruit et la fureur de William Faulkner et Un enfant du pays de Richard Wright. Bien sûr, cela nous amènera à évoquer la question de l'esclavage. Rapidement, rappelons qu'avant la guerre de sécession, les dates 1861-1865, l'esclavage subsiste dans des États qu'on appelle les États confédérés. Ils se composent de 14 États, Maryland, Virginie, Caroline, Géorgie, Kentucky, Tennessee, Louisiane, Mississippi, Alabama, Missouri, Arkansas, etc. Le cœur symbolique du conflit, qui va opposer pendant 4 ans les États du Nord et les États du Sud, c'est bien sûr l'abolition de l'esclavage. L'esclavage est au cœur du système économique et social du Sud. Propriétaires terriens ainsi que industriels de race blanche s'enrichissent de la culture et de la manufacture du coton et du tabac, condamnant à la servitude des milliers et des milliers d'esclaves noirs qu'on a fait venir d'Afrique. Et la remise en cause radicale de ce système était exigée par les abolitionnistes du Nord, et cela va provoquer la guerre. Et les confédérés, comme on les appelle, vont lutter armes à la main pour le maintien de ce système, essuyer une défaite cinglante qui laissera le Sud en ruine. C'est la fin de l'esclavage. Oui, mais la situation des Noirs n'est pas pour autant réglée. Le racisme subsiste et l'intégration pour eux sera extrêmement difficile. Cela apparaît dans le roman de Richard Wright, Un enfant du pays. Quant à la population blanche, en particulier les familles de planteurs, elles sont ruinées et détruites. Et c'est dans l'œuvre de William Faulkner que cette décadence du Sud, à travers la déchéance de ses grandes familles, est montrée de façon la plus forte. L'auteur du bruit et de la fureur, William Faulkner, les dates 1897-1962, et il est issu d'une de ces vieilles familles aristocratiques ruinées par la guerre de sécession. En effet, il est dès son enfance marqué par la personnalité de son arrière-grand-père qui a combattu pendant la guerre civile et a aussi été artisan de la reconstruction du Sud, car quand même le Sud s'est reconstruit. Il a construit une ligne de chemin de fer, il est devenu extrêmement riche. Mais les deux générations suivantes sont marquées par le déclin de la fortune familiale. Faulkner passera sa vie dans sa propriété du Sud, menant une vie de gentleman farmer, très isolé, très secret. Il obtient cependant des prix prestigieux, le prix Nobel en 1949 et le Pulitzer en 1955. Et il reste, on peut le dire, un ou peut-être un des plus grands écrivains américains du XXe. Il a eu une énorme influence sur la mutation du roman, et même en Europe. Éclatement temporel dans ses romans, très grandes innovations dans la technique du roman et grande multiplicité des narrateurs.
Oui, il faut signaler aussi que, bon, c'est un peu anecdotique parce que c'était alimentaire. Il a été scénariste à Hollywood.
C'est vrai. Toute l'œuvre de Faulkner a pour cadre un comté qui a un comté imaginaire, Yoknapatawpha, nom indien, très important, coupé en deux par la ligne de chemin de fer, avec un chef-lieu, Jefferson. Tout ça, c'est imaginaire, hein. Mais néanmoins, c'est semblable à un vrai comté, celui de Faulkner, comté de Lafayette, chef-lieu Oxford, et où il a passé sa vie et où il est enterré. Et dans ce comté imaginaire vivent de grandes familles et aussi des gens venus du Nord pour s'enrichir après la guerre, ce qu'on appelait les carpetbaggers, et bien sûr des Noirs, ceux qui sont restés au pays et n'ont pas émigré vers le Nord comme beaucoup l'ont fait après l'abolition de l'esclavage. Dans le bruit et la fureur, c'est précisément une de ces grandes familles, les Compson, qui est au centre du roman. Dans d'autres romans, il y aura les Sartoris, et il y a dans chaque... Toute sa vie, en somme, Faulkner a vécu dans ce comté imaginaire et dans les romans. Alors, il y a aussi les enfants, le père, la mère, la fille Candace, ou qu'on appelle Caddy, Quentin, Jason, Maury, qui va être rebaptisé Benji, Benjamin ou Benji, et là, une génération en dessous, la fille de Caddy, qui porte le nom de son oncle Quentin, ce qui ne simplifie pas les choses, mais on l'appelle souvent dans le roman Miss Quentin. Le roman a pour titre un extrait un vers de Macbeth. Le monde est comme un conte raconté par un idiot, plein de bruit et de fureur. Et c'est précisément Benjamin, jeune qui est mentalement retardé et ne s'exprime que par des cris, dont nous avons le monologue intérieur dans la première partie. Donc, cela commence par ce flot de conscience d'une personne qui a une intelligence très retardée. Et la deuxième partie du roman, c'est le monologue intérieur de Quentin, donc le fils, étudiant à Harvard. Monologue qui est situé le jour de son suicide, car il va se suicider. Et cette deuxième partie, elle se situe 18 ans avant la scène oui, où ça. Benji raconte ce oui, qu'il voit.
La temporalité est totalement basculée.
Et dans lequel est compté donc ce qui va provoquer son suicide, c'est-à-dire sa souffrance, sa honte, ce sentiment de déshonneur à cause de la conduite de sa sœur Caddy, qui a eu une vie des errements sexuels et un enfant hors mariage. Et il est rongé par cela. La troisième partie, c'est le monologue intérieur de l'autre frère, Jason, qui est le chef de famille, depuis la mort de son père et de Quentin, son frère qui s'est suicidé, et qui apparaît vraiment comme un être monstrueux, violent, raciste. Il déteste sa sœur, Caddy, qui est pour lui à l'origine du déshonneur de la famille. Il déteste aussi sa nièce, Miss Quentin, qui elle, pourtant, n'a encore rien commis et qui est partie dont la mère, Caddy, est partie bannie par sa famille. Ils ne l'ont pas voulu qu'elle reste sur la propriété. Pourtant, cette Caddy continue de penser à sa mère et lui envoie chaque mois un chèque pour subvenir à ses besoins. Mais l'argent est détourné par justement Jason qui garde cet argent dans son coffre. Et la quatrième partie du roman, c'est un récit beaucoup plus classique, et cette fois d'un narrateur omniscient. Au matin du 8 avril, rappelons que la première partie c'était le 7 avril, ensuite on a eu Quentin, et voilà, le 8 avril, c'est le récit plus classique, donc on découvre que Miss Quentin s'est enfuie par la fenêtre dans la nuit pour rejoindre un comédien ambulant en emportant l'argent qui en fait était le sien puisque son oncle avait gardé dans son coffre pour son usage personnel cet argent. Il est plein de fureur. Il se lance à la poursuite de sa nièce, mais il ne parviendra pas à la retrouver. Et dans cette partie, c'est la présence de Dilsey, la cuisinière noire, qui apparaît comme celle qui rétablit l'ordre et la paix. Elle rassure d'abord la grand-mère de Quentin, et surtout, elle veille sur le pauvre Benji, qui, sans comprendre ce qui se passe, est néanmoins très très affecté. Donc Dilsey, et donc c'est trop, très important pour voir comment Faulkner voyait la présence des Noirs dans ce comté, dans ce monde du Sud. Dilsey joue le rôle de mère, tout comme ses enfants sont les gardiens attentifs de Benji.
Oui, il y a une espèce de compréhension des Noirs chez lui qui... On n'a pas le sentiment qu'il soit lui-même raciste.
Oh, pas du tout, pas du tout. Et justement, d'ailleurs, le portrait de Jason, le fils, montre bien, et par contraste, on voit très bien son portrait de Dilsey et des autres, on voit bien qu'il n'était pas. Alors, je veux simplement un très court passage. C'est pour montrer la technique de Faulkner, en particulier dans la première partie. Nous voyons que Benji regarde de son jardin, de son parc, un court de golf.
Oui,
et
c'est ça.
Il voit des gens jouer. Bien sûr, il ne comprend pas. Pour lui, ce ne sont que des choses qui se passent. Et c'est admirable de Faulkner d'avoir rendu cela. Mais à un mot, Caddy, c'est le nom du jeune qui sert à transporter les cannes de golf, mais c'est aussi, on s'en souvient, le nom de sa sœur, celle qui a été bannie et qu'il aimait tellement. Et à ce moment-là, il y a un autre. Et évidemment, c'est sans transition. Et donc, c'est ça qui rend à la fois quelque chose de très fort. On voit bien que ça se passe dans la tête de Benji, mais en même temps, c'est quelquefois un peu difficile. À travers la barrière, entre les vrilles des fleurs, je pouvais les voir frapper. Ils s'avançaient vers le drapeau, je les suivais le long de la barrière. Ils ont enlevé le drapeau et ils ont frappé. Et puis ils ont remis le drapeau et ils sont allés vers le terre-plein. Et puis il a frappé et l'autre a frappé aussi. Et puis ils se sont éloignés. J'ai longé la barrière. Nous avons longé la barrière et nous sommes arrivés à la clôture du jardin. Nous sommes arrivés à l'endroit cassé et nous avons passé à travers. « Attendez une minute, dit Luster, le jeune homme noir qui s'occupe de lui. Vous voulant encore accrocher à ce trou, vous ne pouvez donc jamais passer par ici sans vous accrocher à ce clou. » Caddy m'a décroché et nous sommes faufilés par le trou. L'oncle Maury a dit qu'il ne fallait pas qu'on nous voie, nous aussi. Il faut donc nous baisser, dit Caddy. « Baisse-toi, Benji, comme ça, tu vois ?» Nous nous sommes baissés et nous avons traversé le jardin où les fleurs grattaient et bruissaient contre nous. Le sol était dur. Nous avons grimpé par-dessus la barrière, là où les cochons grognaient et reniflaient. Voilà, ça, c'est l'évocation du monde de Benji, si admirablement rendu par Faulkner. Donc, roman très novateur, à beaucoup d'égards. C'est vraiment une œuvre qui a eu une importance dans le monde de la littérature. Roman magistral, car il dresse le portrait d'un monde dans lequel les valeurs du passé ont disparu et celles du présent sont destructrices. Blanc et noir, dans le monde qu'il décrit, sont enchaînés l'un à l'autre par une malédiction, bien sûr, l'esclavage. Faulkner est en proie à un héritage qu'il aime et exècre à la fois. « On n'échappe pas au Sud », écrit-il. « On ne guérit pas de son passé. »
If you ever been mistreated, you know what I'm talking about. Yeah. If you ever been mistreated, you know, what I'm talking about. Going out to Eddie. I worked 5 long years for one woman. She had the nerves to put me out. A good friend of mine wrote this, Eddie Boy. I got a job in the steel mill, took a steel like a slave.
Et bien maintenant que nous avons parlé de Faulkner, nous allons parler d'un autre écrivain qui a une importance historique. Il s'agit de Richard Wright. Alors, Richard Nathaniel Wright est né en 1908, il est décédé en 1960 et il est décédé en France. Et c'est le premier écrivain afro-américain à avoir écrit un roman qui connut un énorme succès. Il y a eu avant des gens qui ont écrit, mais un succès pareil, jamais. Son roman Native Son, qu'on a traduit en français par
Un
enfant du pays, qui est publié en 1940, rencontre un succès absolument fulgurant. Il est le premier afro-américain à intégrer la sélection célèbre du Book of the Month Club. À l'époque, les critiques le comparent aisément à Steinbeck ou Dreiser.
Et donc, bien sûr, il est un enfant du Sud, originaire de Jackson, Mississippi, petit-fils d'esclave, né dans une famille pauvre. Il fait très tôt l'expérience de la ségrégation et de l'humiliation infligée aux Noirs. En 1925, il part pour Memphis, qui est encore une ville du Sud, bien sûr, fait divers petits boulots pour s'installer finalement à Chicago. Son trajet est tout à fait emblématique de toute une génération de travailleurs noirs qui émigrent vers les villes du Nord en quête de travail. Il adhère au Parti communiste en 1932, mais s'en éloignera quelques années plus tard. Et ses écrits témoigneront tous de la discrimination raciale et de la dureté des conditions de vie dans les ghettos noirs. Et au moment du McCarthyisme, il se réfugie en France en 1946 et il sera finalement naturalisé français, ce qui est quand même important. Pourquoi a-t-il choisi de quitter la nationalité américaine ? Comme les musiciens de jazz Sidney Bechet et Bill Coleman, qui ont fait
la même démarche.
Et en France, il gardera une âme de militant anticolonialiste et prendra parti pour l'indépendance algérienne.
Oui, alors dans son parcours, justement, cet auteur, on voit qu'il a... Il a fait un petit peu aussi comme les musiciens de jazz ou les chanteurs de blues. Il est parti de Memphis, il est remonté jusqu'à Chicago, il a fait le même parcours. Et c'est donc Native Son, enfant du pays, son livre, là, l'auteur nous conte l'histoire absolument terrifiante hein, de la descente aux enfers d'un jeune homme qui s'appelle Bigger Thomas, il a une vingtaine d'années. C'est, il loge, il habite dans une sorte de ghetto qui s'appelle l'Inner City de Chicago. C'est à Chicago, hein, c'est pas dans le sud. Hein. Dans les années 30, nous sommes dans les années 30, mais la situation des populations noires n'est pas encore merveilleuse. Hein. Il y a des gens qui réussissent chez les Noirs, mais il y en a beaucoup qui sont des travailleurs pauvres. Bigger, lui, n'est ni bon ni mauvais, il est plutôt paumé. Il a quitté l'école en cours de scolarité. Il vivote de combine avec quelques copains qui lui ressemblent, hein, des petits larcins, des choses comme ça. D'ailleurs, au moment où commence l'histoire de Bigger, il sort de centre de redressement, où il a passé 3 mois à la suite de divers délits. C'est très fréquent chez ces jeunes noirs qui vivent dans ces ghettos. Il vit avec sa mère, son frère Buddy et sa sœur Vera, dans un taudis minuscule où on chasse les rats, hein, avec la menace permanente d'expulsion du propriétaire qui, lui, bien sûr, est blanc. Et en général, les Noirs qui habitent dans ces taudis payent les loyers plus cher que les Blancs. Il est perpétuellement en colère, hein, garçon. La haine l'habite. C'est une haine qui est mêlée de peur et d'ignorance, hein, c'est lié tout ça. Il n'est pas un personnage très sympathique, Richard Wright ne nous montre pas comme quelqu'un de vraiment très intéressant. Et pourtant, c'est un garçon intelligent. Mais il ne comprend pas le monde qui l'entoure. Il ne possède pas les codes pour le comprendre. Il ne sait jamais quel comportement adopter face aux situations auxquelles il se trouve confronté. Son intelligence est bloquée, cloîtrée, comme l'est sa communauté, là. Et bon, quand il sort de 3 mois dans un centre de redressement, bon, le bureau d'aide sociale, enfin, du quartier, lui propose une offre d'emploi pour aider à ce qu'il essaie de se réinsérer. On lui propose une offre d'emploi dans une famille blanche, très aisée, en tant que chauffeur. Alors, bon, il va se présenter, pas très convaincu, il a vraiment traîné des pieds avant d'y aller, mais finalement il y va avec la recommandation du bureau d'aide sociale. Mais l'attitude des patrons et encore plus de leur fille à son égard le désarçonne. Ça correspond pas à ce qu'il attendait de la part de Blancs. Il pense que ce n'est pas comme ça que des Blancs doivent se comporter avec les Noirs. C'est-à-dire, ses représentations du monde correspondent de façon plus ou moins confuse à celles qu'il pense être des rapports sociaux normaux entre Blancs et Noirs.
Et quels sont ces rapports? Comment voit-il?
Pour lui, un Blanc n'a pas à s'adresser avec gentillesse et compréhension à un Noir.
Eh oui.
À essayer de lui serrer la main. À vouloir manger à la même table. Ça se fait pas. Un point, c'est tout. Pour lui, hein, c'est comme ça. Et l'attitude de bienveillance qu'il rencontre, alors, de la part des parents, c'est plutôt une attitude de bienveillance un peu paternaliste, le déstabilise et l'inquiète. Et il préférerait de loin des rapports classiques. Et la fille de ces gens-là, la jeune Marie, ça le déstabilise encore plus parce que Elle est sympathisante communiste et elle a un ami qui s'appelle Jan, je ne sais pas comment on prononce, Jan. C'est un jeune militant communiste qui la fréquente et il y a un malentendu qui s'installe parce que eux essaient, ces jeunes-là, de lui montrer qu'il est un homme comme les autres, qu'ils ne font pas de différence, mais ce malentendu, finalement, c'est ce qui va être la source et le déclencheur du drame qui va s'en suivre. C'est ça qui est très fort dans ce livre, c'est qu'on voit que ni d'un côté ni de l'autre, on comprend ce qui se passe. On n'a pas eux n'ont pas plus les codes dans l'autre sens que lui. Et en effet, un jour qu'il emmène cette jeune fille, qu'il était censé l'emmener à l'université et elle... lui dit d'aller ailleurs pour rencontrer ce jeune homme-là. Et alors, après qu'ils soient allés manger ensemble, qu'ils s'est allés dans des bars boire de l'alcool, il est censé... Bigger Thomas, le triste héros de cette histoire, qui doit désobéir à ses patrons sur son ordre, eh bien, ce qui va se passer, voilà... c'est le début d'un enchaînement de situations qui conduiront à la catastrophe. Parce que Bigger, ayant ramené dans sa chambre la jeune fille, Mary, qui est ivre, qui n'est pas en état de marcher, elle est à moitié inconsciente, il la pose sur son lit, et tout d'un coup, il voit arriver dans la chambre, dans la pièce, la mère de la jeune fille. Mais cette femme est aveugle, donc elle ne le voit pas dans la pièce. Mais elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et elle entend plus ou moins sa fille bredouiller. Et elle s'approche, elle sent l'alcool. Et elle dit, bon, elle va la laisser dormir. Mais elle recommence à faire du bruit, à parler, la fille. Et lui, pris de panique, il lui colle un oreiller sur le visage. Et il l'étouffe accidentellement en essayant d'empêcher de parler. Et parce qu'il ne voyait pas comment expliquer sa présence d'homme noir dans la chambre d'une blanche. Parce que dans ces conditions...
Il aurait été accusé de viol.
Voilà, c'est ça. Donc, Bigger, il va devenir un criminel. Pourchassé et capturé par la police, promis au lynchage si on laissait faire la foule. Parce qu'il va mettre le cadavre dans un calorifère. Enfin, ça va être abominable ce qu'il va faire après. Mais il est vraiment paniqué. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Et l'auteur ne cherche pas à rendre sympathique Bigger Thomas, mais il cherche à expliquer au fil de ce roman comment ces jeunes de ghetto noir de Chicago des années 30, déscolarisés pour beaucoup, hein, souvent de leur propre chef, ils abandonnent parce qu'ils ne voient pas, en l'école même, un moyen de s'en sortir. Ils sont de milieux ouvriers extrêmement pauvres, démunis culturellement, victimes de discrimination raciale, même si on est dans le Nord, peuvent basculer dans le crime, pris dans une spirale de haine, face à leurs conditions de vie sans perspective.
Alors, Richard Wright a été quelques années membre du Parti communiste américain. Et au procès de Bigger Thomas, il y a un très long passage, la longue plaidoirie de son défenseur, qui est d'ailleurs dans le roman Un communiste, l'avocat communiste.
C'est un blanc,
Max,
hein, c'est un blanc.
Et il est blanc, bien sûr. Tout empreint de marqueurs idéologiques socialistes qui sont confrontés au conservatisme social obscurantiste et entaché de malhonnêteté intellectuelle du procureur Buckley, qui représente les partis civils. Et l'issue ne fait aucun doute. L'accusation est construite sur des arguments faisant plus appel aux émotions qu'à la réflexion, sur des témoins douteux. Accusation de viol que n'a pas commis, bien sûr, Bigger Thomas, entre autres crimes. Et aussi, on l'accuse de crimes qu'il n'a pas commis. Il montre bien sûr que la fin, c'est qu'il sera condamné à mort. Certes, pour le crime qu'il a commis, d'avoir étouffé, mais surtout parce qu'il a le tort d'être noir, pauvre et prétendument soumis, comme ses congénères, à de sombres instincts. Donc irrécupérable, malgré tout le mal que de bonnes âmes se donnent pour le sortir de ça.
Mais c'est le cas des parents de Meryl et Dalton qui en sont vraiment l'exemple.
Alors, peut conclure un roman très long, 500 pages, réquisitoire implacable contre la ségrégation raciale. Et ce combat qu'il mène par l'écriture, il le poursuivra jusqu'à sa mort prématurée à 52 ans. Et donc il aura une influence importante sur de grands écrivains que nous n'avons pas traités car nous avons arrêté à 1950. Donc les grands comme Ralph Ellison, James Baldwin et Toni Morrison. Ceci est donc la dernière émission consacrée au roman américain. Rappelons que pendant 4 mois auparavant, nous avons parlé du cinéma américain. Nous espérons qu'il vous a donné envie de voir des films et surtout de lire de très grandes et belles œuvres. Et nous vous remercions de votre attention.